Christ lui-même nous accorde la paix, parce que c'est lui qui est la paix. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous une prédication que j'ai entendue d'un frère. Et le thème de la prédication, c'est la séduction babylonienne. Nous commençons par la lecture. Il y aura plusieurs lectures. Je vous invite vraiment vivement à prendre vos Bibles. On va beaucoup lire ce matin. Je vais plus lire qu'interpréter. Le premier texte, c'est Apocalypse 17. Apocalypse 17. Lisons au nom du Seigneur. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes, vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms de blasphème, et qui avait sept têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a les sept têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle fait partie des sept et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant une heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la tête détesteront la prostituée, et elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Amen. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous savons que tu es un Dieu immense. Nous savons, Seigneur, que ton amour nous inonde. Oui, Jésus, nous te remettons ce moment entre tes mains. Que toi seul, Seigneur, tu puisses parler à ton peuple, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, et permets-nous de mettre en pratique ta parole. Et Seigneur, nous annulons tout ce que l'ennemi veut faire contre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève-toi, Seigneur, prends toute ta place et que ton esprit nous console, nous enseigne selon ce que tu as dit. Et nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est un Dieu de miracles. Dieu fait grâce en toutes circonstances, même dans les circonstances les plus difficiles, même dans l'épreuve. Nous voyons la main de Dieu. Quand je me suis converti, quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ne pouvais pas imaginer de découvrir autant de grandeur dans ce Dieu merveilleux. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais pu me tenir devant une assemblée, lire la parole de Dieu, prêcher avec ma femme qui est à l'hôpital. Le Seigneur est un Dieu grand. Je ne sais pas comment je suis devant vous, mais Dieu fait grâce que je sois devant vous. L'état de santé de ma femme ne cesse de s'améliorer et je remercie le Seigneur parce que jusqu'aujourd'hui, je peux dire que dans toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne vous abandonnera jamais. Nous les hommes, nous pouvons abandonner Dieu, mais Dieu n'a pas la nature d'abandonner les hommes parce qu'il nous aime. Je remercie le Seigneur encore pour sa parole parce que lorsqu'on lit dans 1 Corinthiens 14, Dieu inspire l'apôtre Paul et il lui dit de chercher le don par excellence. Et je n'avais pas compris c'est quoi le don par excellence. Et c'est par l'épreuve que je comprends mieux le don par l'excellence. Le don par l'excellence, mes chers amis, c'est la prophétie. C'est le don par excellence. Et voyez-vous, les hommes discutent beaucoup sur d'autres dons, mais rarement sur la prophétie. Je remercie le Seigneur parce que lorsque cette épreuve est arrivée, ma femme elle-même a vu qu'elle était guérie. Donc nous combattons dans la victoire. Je remercie le Seigneur parce que dans l'assemblée des frères et des sœurs m'ont appelé pour dire « Elle est guérie ». Nous combattons dans la victoire. Je remercie le Seigneur parce que par deux fois le Seigneur s'est révélé à ma femme pour lui dire « Tu es guérie ». Nous combattons dans la victoire. Je remercie le Seigneur parce que hier soir encore, une de mes filles s'est réveillée, m'a dit j'ai rêvé. Maman marchait. Je remercie le Seigneur. Et voyez-vous, nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire et la paix, le diable ne peut pas nous enlever cette paix. Parce que nous sommes en paix à cause du sang de l'agneau qui a été versé. À aucun moment ce sang ne peut s'éloigner de nous. Gloire à Jésus. Ainsi donc, nous allons voir ce matin comment le malin opère pour pouvoir nous enlever la paix. Comment le malin opère pour essayer de nous séduire. Attention, il est très subtil. Il est extrêmement subtil. Et même encore dans cette épreuve que je vis, il y a des moments où il essaie de s'introduire. Apocalypse 17, la femme prostituée qui a plusieurs noms de blasphème, c'est là même Satan qui prend cette image pour montrer comment il peut égarer le peuple de Dieu. Et si vous lisez Apocalypse 12, vous allez voir une autre femme qui est présentée. Ici, dans Apocalypse 17, cette femme, elle est dans le désert, la prostituée. Ça a un sens. La femme d'Apocalypse 12, qui n'est autre que l'image de l'Église, se trouve sur une montagne. Remarquez comment le Seigneur nous incite à bien regarder sa parole. Il est extrêmement important de lire la parole de Dieu, chers amis. Je vous rappelle que la lecture de la parole journalière est fondamentale. Et lorsqu'on lit la parole, il faut lire minimum un chapitre par jour. Donnez-vous l'objectif de lire des livres. Vous pouvez vous dire, ce mois-ci, j'attaque Apocalypse. Le mois prochain, j'attaque Deutéronome. Il faut lire la parole de Dieu parce que c'est grâce à cette parole que le sang de l'agneau jaillit dans la parole de Dieu. Et lorsque le sang jaillit, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu est là. L'Église est sur une montagne, la femme prostituée dans le désert. Et remarquez que de la montagne, vous pouvez tout voir. Vous voyez le lien avec la prophétie. Quand tu es sur la montagne, tu vois ce que fait le malin. Tu vois ce que fait le diable. Et la prostituée dans le désert, mais l'église située sur la montagne voit bien comment le diable vient pour attaquer. La première attaque que le diable fait, c'est la même attaque qu'il a faite à Jésus dans Matthieu 4. Mais vous allez être surpris, grande a été ma surprise, de retrouver la même attaque, toujours la même attaque. Babylone, le diable fonctionne toujours de la même façon. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, la bête, c'est l'Antichrist. Ensuite, il y a le faux prophète dans Apocalypse. Ensuite, il y a le dragon ancien. Le dragon ancien, c'est Satan. Satan va donner tous ses pouvoirs à un certain moment, à la fin des temps, il donnera tous ses pouvoirs à l'Antichrist. Et l'Antichrist s'élevera dans le temple de Jérusalem et demandera à ce qu'on l'adore. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a déjà montré toutes ces choses. C'est pour ça que la parole de Dieu est une parole prophétique. Tu sais déjà ce qui va arriver. C'est ça qui fait ta force. Le diable ne peut pas venir te dire, ça ne se passera pas comme ça. Moi, je vous dis de me suivre. Parce qu'attention, l'objectif du malin, c'est de donner la mort. Le malin ne nous aime pas. Un jeune homme a vécu une situation extrêmement difficile dans l'Ancien Testament. Et il a subi les mêmes attaques en prélude de ce que Christ allait vivre, c'est Daniel. Daniel 1, je vous invite à lire. La troisième année du roi du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta des ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réserva pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin des banquets. Il voulait les former pendant 3 ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à l'Éternel, « Je redoute mon Seigneur le roi. » C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrais-je vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent des plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient des plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes à la place. Dans cet épisode, on voit Daniel et ses compagnons qui arrivent à la table du roi. Le roi a pris des ustensiles dans le temple de Jérusalem. Il a pris les enfants nobles. Regardez bien le visage prophétique de la situation. Il prend les ustensiles pour le culte. Il prend les enfants nobles, il les ramène vers lui. Ici, le roi, c'est l'image de Satan. Adam est roi dans Éden. Que fait Satan? Il vient le prendre pour usurper sa place. Arrivé dans le palais du roi, la première chose qu'on leur dit, c'est que vous devez manger la même chose que le roi. Attention à ton alimentation. Tu dois manger la même chose que le roi. Mais est-ce que ce que tu manges du roi va te donner la force pour plaire à Dieu? Daniel a bien compris l'astuce. À partir du moment où ils vont manger les mets du roi, ils vont s'éloigner de Dieu. C'est pour ça que Daniel et ses compagnons disent, nous ne mangeons pas la nourriture du roi, donne-nous de l'eau et des légumes. Remarquez, Christ, Matthieu 4, Jésus est devant Satan. Ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Que fait Satan? Satan lui dit, mais toi, Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus cite Deutéronome 8, verset 3. La séduction babylonienne, le diable commence toujours par la chair. Le diable commence toujours par attaquer par la chair. Et c'est toujours très subtil. Si vous prenez la situation de Daniel et ses compagnons, vous pouvez dire, oh, c'est peut-être mérité, c'est une bonne chose d'avoir la nourriture du roi. Cette nourriture est de qualité. Le vin est de bonne qualité. Mes amis, la qualité des aliments que nous mangeons doit être une qualité spirituelle. C'est pour ça que le Seigneur t'invite à prier avant de manger. Parce que tu ne sais pas ce que cette nourriture va avoir comme impact sur toi. Lorsque vous regardez les documentaires sur les fast-foods, vous pouvez vous dire, non, je ne vais plus manger dans les fast-foods. Avec tant de produits cancérigènes. Mais grâce au sang de l'agneau, tous ces produits n'ont pas d'impact sur ta vie. Babylone séduit par la chair, la convoitise, le sexe. Remarquez, nous avons lu Apocalypse 17, il y a une femme qui est là, qui a des noms de blasphème. Aujourd'hui, n'importe quelle publicité à la télé, il faut qu'il y ait une femme. En plus, il ne faut pas qu'elle soit habillée. On vend une voiture, on vous montre une femme. On vend un téléphone, on vous montre une femme. La séduction babylonienne. Ton regard va aller vers la convoitise des yeux. C'est un véritable piège que le malin nous tend. C'est le Seigneur qui nous donne le discernement. Daniel avait compris qu'il lui fallait manger de la nourriture solide. La parole de Dieu est une nourriture solide. Pourquoi la séduction babylonienne, la séduction de la chair n'aura pas d'impact sur toi? Parce que tu es bien nourri. Mais qu'est-ce qui te nourrit? C'est la parole de Dieu. Ce matin, si je prenais un long texte d'un poète, si je prenais Baudelaire, si je prenais Rousseau, et nous lisions le texte, voyez-vous comment le diable a mis de la semence en nous? Je pense que vous serez plus attentionnés que lorsque nous lisons Daniel 1. Comment ça se fait que les choses du monde, vous pouvez passer 4 heures à regarder une série télé, mais dès que vous lisez un chapitre de la Bible, vous êtes fatigué? Séduction babylonienne. Le diable a mis sa semence. Il faut que tu te rendes compte qu'en moi, le diable a mis une semence. Parce que ce qui doit m'attirer, ce sont les choses de mon père. Mais qui est ton père? Qui est ton père?
C'est pour ça que Dieu demande aux enfants de Dieu d'épouser que des gens qui sont croyants. Parce que si tu n'épouses pas quelqu'un qui est croyant, tu es en train d'épouser quelqu'un qui a un père. Mais qui est son père? Jésus, dans son langage que les pharisiens ne comprennent pas, il leur dit, vous avez pour père le diable. Mes amis, quand tu marches avec quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu marches aussi avec son père. Son père, c'est le diable. Et le diable met sa semence. Cette semence, il faut la détecter et il faut qu'elle sorte. Regarde la grâce que Dieu t'a fait. Pour toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans Éphésiens 1, Dieu t'a béni de toute éternité. Le piège du responsable eunuque face à Daniel, c'était de lui dire, tu vas te présenter au roi, tu auras mauvaise mine. Est-ce que vous pensez qu'un enfant de Dieu peut avoir mauvaise mine? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la beauté que tu as, c'est Dieu qui te l'a mise. Ce ne sont pas les hommes qui te donnent cette beauté. Et plaire, c'est plaire à Dieu. Mes amis, ça c'est très important. Plaire, c'est plaire à Dieu. Daniel savait qu'il était beau. Pourquoi? Parce qu'il est beau depuis l'éternité. C'est Dieu qui l'a rendu beau. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le mouton que tu manges. Ce n'est pas le caviar que tu manges, pour les amoureux du caviar. Ce n'est pas le champagne. On dit que le champagne, des fois, fait ressortir les cheveux. Moi qui perds les cheveux, il faut prendre du champagne pour faire... Non, Dieu t'a rendu beau. C'est Dieu qui te rend beau. Attention aux choses du monde et aux choses de Dieu. Séduction par la chair. Comment maîtrises-tu ta chair? Quel est le regard que tu as lorsque tu marches? As-tu un regard de convoitise? Est-ce que tu fumes? Séduction par la chair. Le diable va tout utiliser pour détruire ton corps. Est-ce que l'impudicité t'attire? Quand nous étions enfants, une vraie surprise, notamment dans l'adolescence, lorsqu'on discutait avec des amis, des jeunes garçons, j'avais remarqué qu'au bout d'un certain temps, quand nous regardions des femmes passer, nos regards s'attardaient plus sur celles qui avaient un mari. C'est bizarre, hein, quand même. Comment Babylone met dans le cœur de quelqu'un d'être attiré par une personne qui est déjà avec quelqu'un? Séduction babylonienne. La parole de Dieu te dit, dans Genèse 2, on endort Adam, ensuite Ève sort. Est-ce que tu crois, toi qui t'es marié, qu'on t'a fait dormir et ta femme est sortie? Est-ce que tu le crois? J'ai discuté de ce point avec des frères et des sœurs. Il y en avait qui croyaient, il y en avait qui ne croyaient pas. Séduction babylonienne. Si tu ne crois pas, c'est la séduction de Babylone parce que Dieu a écrit dans sa parole que j'ai endormi Adam. Et Ève est sortie. C'est de la même façon pour toi qui t'es marié. On t'a endormi et ta femme est sortie. Si tu ne crois pas, Babylone a mis quelque chose en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand tu lis la Bible, tu dois croire en ce qui est écrit dans la Bible. Si tu ne crois pas, ça veut dire que Babylone t'a atteint. Croire ne suffit pas. Il faut aussi mettre en pratique. Si tu as compris que tu as dormi, qu'on a sorti ta femme, ton regard ne peut que changer dans ta relation avec ta femme. Et toi, la femme, ton regard ne peut que changer dans ta relation avec ton mari. La grâce que Dieu nous fait. Une attaque rusée sur la chair. Et c'est pour ça que cette chair, l'apôtre Paul nous rappelle, oh vraiment le Seigneur, son esprit était sur cet homme, que cette chair, il faut la traiter durement. Il faut être dur avec sa chair. Parce que Babylone s'assoit, la femme, elle est assise sur la bête. Donc imaginez, c'est un cocktail explosif. Vous avez l'Antichrist plus une femme. Et quand on parle de la femme d'Apocalypse 17, nous sommes bien dans la femme selon les critères du monde, qui est pratiquement dénudée, qui attire tout le monde. Vous savez, j'ai vu un article une fois qui m'a beaucoup surpris. Lorsqu'ils ont fait c'est un jeu vidéo d'ailleurs, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, Lara Croft, pour faire l'image de Lara Croft, ils ont pris plusieurs hommes à qui ils ont demandé de donner des critères de beauté. Et ces hommes ont donné des critères de beauté de femmes qu'ils auraient voulu avoir comme épouse. Et de ces critères de beauté, ils ont fait une femme qui plaît à beaucoup d'hommes. Que ce soit la grande prostituée d'Apocalypse 17, que ce soit Jézabel qui était avec Akab, toutes sont des manifestations de l'antique, c'est-à-dire c'est Satan qui utilise ou le corps de la femme ou le corps de l'homme. Attention, ne vous braquez pas que sur le sexe. Il peut arriver aussi à toi, femme, de voir un homme passer et de commencer à... Ça ne va plus là. Ça ne va plus. Tu n'arrives plus à te contenir. Il faut que tu ailles voir. J'étais à table une fois avec une de mes responsables et il y a un monsieur de la sécurité qui est arrivé. Elle m'a dit, mais il faut que j'aille voir, c'est qui? Qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Tout le repas, elle posait des questions sur cet homme. Séduction babylonienne. Tu es attiré par les yeux. Le fruit brille. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils étaient à la place d'Adam et Ève, ils n'auraient pas pris le fruit. Séduction babylonienne. Parce que tu penses que tu es plus fort que les autres. C'est faux. Quand ça brille, toi aussi, tu vas y aller. Il n'y a que le Seigneur qui peut te donner des forces. La deuxième séduction dans laquelle le diable va attaquer, c'est dans Daniel 3. Dans Daniel 3, le roi va faire quelque chose cette fois-ci. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres de large et de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se mirent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique, de toutes sortes, vous vous prosternerez. » Et vous adorez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. On est dans l'adoration. Dans Matthieu 4, le diable montre les royaumes à Christ et il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Vous voyez, il n'a pas changé. Hein. C'est toujours, il opère toujours de la même façon. Et dans ta vie, il opérera toujours de la même façon ou il a opéré de la même façon. Voici tout ça. Je vais te donner tout ça. Mais la chose que tu dois faire, c'est que tu dois m'adorer. Les compagnons de Daniel ont répondu au roi, « Ô roi, tu peux faire ce que tu veux. Nous, on n'adorera jamais ta statue. » Remarquez, on n'a même pas posé la question à Daniel. Les trois compagnons sont allés dire au roi, « C'est même pas la peine. Tu peux faire ce que tu veux. Nous n'adorerons jamais ta statue. » On les a pris, on a mis dans le feu. Ils étaient tranquilles dans le feu. Ils sont ressortis. Et le roi a dit, « Oui, celui que vous priez là, c'est un vrai Dieu. » Le diable, dans sa subtilité, va émerger une statue dans ta vie. La statue te ramène au diable. Or, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable tient à ce qu'on s'arrête au sixième jour. Vous savez que le sixième jour, c'est le jour où on a créé l'homme. Il ne faut pas qu'il y ait le septième. Il ne faut pas que tu ailles au repos au septième jour pour rencontrer Christ. Donc, il va introduire une adoration d'homme. Ainsi, vous trouvez les nouvelles statues. Parce que là, c'était une statue d'époque. Les nouvelles statues que le diable a sorties, ça existe même dans la religion. Lorsque vous entrez dans une communauté où le pasteur est vénéré, vous avez Nebuchadnezzar, les branhamistes. Quand vous discutez avec un branhamiste, si vous parlez de Branham, ils sont un peu comme les musulmans. Quand vous parlez de Mahomet, attention, il y a un problème. Mais de Dieu, ils sont tempérés. Mais si vous dites Mahomet, ah là 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 là, mais qui est ton Dieu? Mahomet ou Dieu du ciel? Qui est ton Dieu? Branham ou Dieu du ciel? Voyez-vous la subtilité du malin? Quelle est ton adoration? Le malin est très subtil, attention. Cette nouvelle statue qu'il a fait ériger et qu'il a demandé à ces jeunes gens, remarquez, il attaque les jeunes et après les plus âgés. Les jeunes gens, on leur a demandé d'adorer. Ils ont dit non. Remarquez aujourd'hui nos jeunes gens. Quelle est la nouvelle statue que le diable utilise pour qu'il l'adore? Très simple, la musique. Musique du monde. Musique du monde. Déjà, mais c'est vraiment subtil, les trois quarts de ces musiques sont dans une langue que nos enfants ne maîtrisent pas. Si on te demandait de traduire ce qu'on est en train de dire, il y a des horreurs qui sont dites. Musique du monde pour les jeunes, mais musique du monde aussi pour les adultes. Où en es-tu? Parce que rendez-vous bien compte qu'il n'y a que deux pères. Où tu es avec le Christ, ou tu es avec l'ennemi. Quand tu écoutes ta louange là, si c'est la louange du Christ, tu es dans l'adoration et je te rappelle que Dieu siège au milieu de l'adoration. Le même texte peut t'ouvrir les yeux à comprendre où siège le diable. Où siège le diable? Dans le milieu de l'adoration. Dans l'adoration païenne. Dans l'adoration du monde. C'est une semence qu'il a mis en toi. Mais vraiment, le Seigneur est bon parce qu'il nous permet de détecter ces choses. Allumez le feu. Allumez le feu. Vous allez faire danser les diables et les dieux. Voilà ce que disait Johnny Hallyday, un sataniste connu d'ailleurs. Je suis des fois surpris, en train de prendre une douche, de chanter un cantique, et quelquefois, une vieille chanson vient à l'esprit, lorsque nous étions dans le monde, Kofi Olomide. Ça vient à l'esprit. Et on se dit, comment, après autant d'années de lecture, cette semence-là est encore là? Pourquoi cette chanson vient encore aujourd'hui? Quelle est ton adoration? Quelle est ton adoration? Où en es-tu avec l'adoration? Où en es-tu avec ton témoignage? Qui adores-tu? Qui adores-tu? Dans ce que tu lis, dans ce que tu écoutes, qui adores-tu? Quand tu regardes TF1 pendant 4 heures, qui adores-tu? M6, 7 heures, qui adores-tu? Le diable est subtil, c'est fini. La grande statue où tout le monde va regarder, va se dire, ah ouais, non, là quand même, je ne peux pas. Non, c'est subtil. La forme d'adoration change. Il va te mettre d'autres choses. Ton téléphone, je n'ai pas mon téléphone. Qu'est-ce que je vais devenir? On cherche. Qui adores-tu? Qui adores-tu? Quelle est ta connaissance de la parole de Dieu? Parce que ton adoration, c'est aussi dans la parole de Dieu, dans ce que tu sais de ton Père. Aujourd'hui, pour nous tous, si on te demande ton Père terrestre, que sait-il de lui? Tu vas citer des choses. Mais si on te demande ton Père céleste, que sait-il de lui? De Genèse 1 à Apocalypse 22. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Quels sont les versets que tu connais? C'est là ton adoration. Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de louanges, beaucoup de films bibliques. Toutes ces choses sont utiles pour nous armer à résister. Et l'épée de la parole, c'est toujours celle-là qui nous fait résister. Remarquez, lorsque le diable dit à Jésus, « Je te donne tout ça », Jésus lui dit, « Arrière de moi, tu n'adoreras que Dieu. » Il est temps de dire, « Arrière de moi, je n'adore que Dieu. » Il faut que tu passes du temps avec ton Dieu. Coupe du monde, 2 heures par match, avec les prolongations. 7 minutes de prière. Qui adores-tu? Il faut choisir. Notre adoration, c'est pour le Seigneur. Personne d'autre ne peut venir prendre cette adoration-là. Et le diable, dans sa subtilité, il va introduire des formes de culte. Chez les Branhamis, c'est Branham qui devient le Dieu. Au bout d'un moment, ils sont obligés de le dire. La surprise. Chez les témoins de Jéhovah, on vous dit que Jésus n'est pas Dieu. Tiens, c'est bizarre ça. Ah, Jésus n'est pas Dieu. Mais on prie. Mais on lit la Bible. Ah, c'est bizarre. Mais qui en adore? Mais qui tu adores? Si Jésus n'est pas Dieu, qui adores-tu? Comment s'appelle ce Dieu? J'ai suivi une fois une émission sur Internet, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV qui dénonce tout ce qui se passe dans des églises, des escroqueries, des choses comme ça. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est le même après qui va vous dire que non, aller dans les églises, ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez comment le diable s'introduit? Il dénonce les voleurs, mais ensuite il vous dit non, l'église, ce n'est pas biblique. Ah bon? Tu as lu la Bible? Tu as lu Actes des Apôtres? Il n'y avait pas d'église. Tu dénonces. Mais ce n'est pas fini. Il faut poser un peu plus de questions. C'est le même qui vous dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et ça s'appelle Jésus-Christifié. C'est même pas la peine. Même pas la peine d'écouter 3 secondes. Parce que vous savez que l'Antichrist est entré là. C'est le diable qui est en train de le faire avancer. Et il pense qu'il sert Dieu. Le pire, mes chers amis, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils servent Dieu alors qu'ils servent le diable. Quand tu as un problème avec la divinité de Jésus-Christ, tu sers le diable. Tu sers le diable. Il est toujours aussi subtil. Ensuite, troisième attaque, dernière attaque, Daniel 5. Un épisode très, très surprenant. Le roi est là, il fait venir sa cour avec ses concubines. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les ustensiles du temple. Dans le temple de Jérusalem, il y avait plusieurs ustensiles qui étaient utilisés, en fait. Lorsqu'il fallait égorger les animaux, il y a beaucoup de choses qui étaient utilisées. Il prend ces choses, il y avait des coupes pour que les Lévites puissent boire, pour que les grands prêtres puissent boire. Il prend ces choses et maintenant il boit. Il boit avec ses amis pour montrer à ses amis qu'il a triomphé sur Jérusalem. C'est le fils de Nebuchadnezzar désormais, c'est son fils maintenant qui règne. Et lui, il veut montrer à tout le monde que désormais, Babylone, c'est lui qui concentre tous les pouvoirs. C'est lui qui règne. C'est lui qui a la royauté, c'est lui qui est idolâtre, et il est en train d'idolâtrer ses dieux en bafouant le peuple juif, en montrant que leur Dieu n'est pas puissant. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en train de manger, il y a une main qui écrit sur le mur. Ces hommes aimaient bien le surnaturel, hein? Mais là, ils voient une main qui est en train d'écrire sur le mur. Le roi tremble. Alors, lorsque vous lisez les tremblements du roi, vous avez l'impression que c'est comme dans un dessin animé quand quelqu'un a peur. Tout son corps frémit parce qu'il a vu une main en train d'écrire sur le mur. Soit disant que roi, tu es fort, vis éternellement. Le roi, tu es Dieu. Maintenant, tu vois une main qui écrit, tu as peur comme ça. La main écrit. Il va appeler tout le monde pour pouvoir interpréter ce qui est écrit. C'est la panique totale. Un jour, des hommes ont pris une femme, Ils l'ont mis au centre d'une cour. Ils ont dit à Jésus, nous, il nous est demandé de lapider cette femme parce que nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Que fait Jésus? Que fait Jésus? Il écrit. Il écrit. La main qui écrit sur le mur ne fait qu'annoncer Christ qui vient. Christ écrit par terre. Ils sont en train de s'exciter. Faut la tuer. Vous savez, les hommes, quand ils sont armés, hein, faut la tuer. Ça crie. Même ceux qui ne marchaient pas bien sautent. Non, faut la tuer. Bon. Christ leur dit, celui qui n'a jamais péché, commence. Il continue à écrire. Le fils de Nebuchadnezzar change de couleur parce qu'il a peur. Et heureusement que sa mère lui dit, non, il y a un prophète ici qui peut interpréter, on va appeler Daniel. Et Daniel va lui dire, ton royaume est fini. Parce que tu as fait l'erreur de prendre les ustensiles de Dieu, de les emmener dans ta maison et de blasphémer. Le royaume de Satan est fini, mes chers amis. Parce qu'il a été vaincu à la croix, parce qu'il sera battu pendant la bataille d'Armageddon, parce qu'il sera encore battu pendant la bataille de Gog et Magog, Apocalypse 17 jusqu'à 22. Le malin essaye de montrer des muscles qu'il n'a plus. Il est fini au nom de Jésus. Il va te présenter le pouvoir. Il va te présenter des royautés. Mais toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi, tu es roi. Tu es roi. Le vrai royaume, c'est celui de Christ. Toutes ces pâles imitations qu'on a vues vont s'arrêter. Tous ces royaumes s'arrêtent. Et lorsque vous lisez Daniel 2, ça résume tout le livre d'Apocalypse. Parce qu'on montre la prophétie qu'il y a un royaume qui viendra régner éternellement. Et ce royaume est un royaume unique, c'est celui de Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus peut régner dans ta vie, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, je t'invite à venir à la fin du culte pour que Jésus règne dans ta vie. Son royaume est un royaume éternel. Et il a écrit sur le mur, parce qu'il va écrire dans ton cœur. Souvenez-vous, vos filles et vos fils prophétiseront. Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Attention, toute chair. C'est Ézéchiel 36, 26. C'est-à-dire ceux qui ont le cœur nouveau. Dieu répand son esprit, quand il dit « je répands mon esprit sur toute chair », ça ne veut pas dire que tous les êtres humains vont avoir l'esprit de Dieu, non. Je répands mon esprit sur toute chair, la chair, il faut que tu aies un cœur de chair pour que son esprit vienne. Et pour que tu aies un cœur de chair, il faut que tu naisses de nouveau. Et pour que tu naisses de nouveau, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et désormais, il règne en toi. Il règne en toi. Vous vous imaginez ce grand Dieu qui avait un grand temple dans Jérusalem a réduit ce temple pour entrer dans ton cœur. Gloire à Jésus. Et c'est dans ton cœur qu'il écrit sa parole. C'est pour ça qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Lorsque tu en lis la parole de Dieu, tu es dans ton élément, ça te fait plaisir. Tu baignes dans ton élément. Comme un enfant en train de boire le sein de sa mère, très heureux. Vous savez quoi, un enfant voit le sein de sa mère, il est super heureux. Il y a une amie à ma mère qui m'a dit, ah, tu es dernier, toi. Ah, tu as bu le sein pendant longtemps, hein, parce que les derniers boivent longtemps le sein. Celui qui nous donne à manger, c'est Jésus-Christ. Sa parole est là. Sa parole est là pour toi ce matin. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Il va faire de grandes choses dans ta vie. Que le monde ne te séduise pas. Christ a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et cette victoire, toi aussi tu l'auras. Apprends à détecter les attaques de l'ennemi. Sois ferme dans ta louange. Sois ferme dans ton temps de prière. Sois ferme dans tes prières. Et dans Éphésiens 6, il nous est rappelé toutes les armures que Dieu nous a données. Toutes les armures que Dieu nous a données. Et une armure qui va de la tête aux pieds, c'est la prière. Et dans la prière, il y a aussi le jeûne. Ces choses, il faut les faire parce que c'est de l'adoration. Quand tu t'empiffres de Big Mac, c'est aussi de l'adoration, mes chers amis. Celui qui mange beaucoup adore quelque chose aussi. C'est le diable. Toujours aussi subtil. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Parce qu'il a vaincu pour toi. Jacques 4, verset 7, il est dit, soumettez-vous à Dieu. C'est la première condition. Se soumettre à Dieu. Ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous d'abord à Dieu. Ensuite, tu peux résister au diable. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Il fera de toi ce qu'il veut, même dans l'Église. C'est ça la surprise. C'est que cette partie sur les royautés, même dans l'Église, on retrouve le diable a pris des ustensiles. Il y a des gens qui viennent avec des versets bibliques et ils vont vous dire, mais oui, bibliquement c'est prouvé. Tu dois donner tant d'argent parce que le verset dit que Abraham donnait sa dîme. Toi aussi tu dois donner. Le diable utilise aussi la parole de Dieu, mes chers amis. Le diable entre aussi dans l'église pour emmener la fausse doctrine. Si tu ne lis pas la parole, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce qui est fausse doctrine. Si tu ne lis pas la parole, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce que Jésus attend réellement de toi. Et si tu ne lis pas la parole, tu peux suivre un gourou. Vous savez que les gens qui sont dans des sectes, ce ne sont pas des débiles. Hein. Des fois, on retrouve des gens avec une intelligence extraordinaire. Mais leur perte a été de ne pas lire la parole de Dieu. Comme ils n'ont pas lu la Bible, quelqu'un va venir vous interpréter la Bible et vous dire des mensonges. Jésus-Christ vit. Jésus n'est pas Dieu. Comment peut-on se lever pour dire des choses pareilles? À l'agneau de Dieu soit la gloire. Pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse.